Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Esprit Sport, 27e numéro. Et oui, déjà on est à la moitié de l'année avec une équipe qui a le couteau entre les dents après le match du 15 de France de ce week-end. Il a déjà participé à l'émission, c'est sa deuxième aujourd'hui. Bienvenue Julien.
Merci pour l'invitation.
Voilà, on va débattre dans quelques minutes. Il est là, comme toujours. Bienvenue Corentin.
Bonsoir Jonathan, bonsoir à tous.
Et pour une fois, il n'y a pas de délai, et ça c'est plutôt pas mal.
Attendez, on n'est pas arrivé au bout de l'émission encore.
C'est que le début. Avec un peu de retard, elle est là aujourd'hui. Bienvenue Corinne.
Bonsoir à tous.
Après, vous allez nous laisser pendant quelques jours.
Voilà. En effet, oui.
Quelques semaines.
Au moins une semaine, oui.
Au moins une semaine.
Oui, au moins une semaine.
Eh bien voilà, on vous retrouvera avec plaisir un petit peu plus tard. Et il a l'œil aussi affûté que le verbe. Bienvenue Erwan.
Merci, j'étais pas prêt pour cette introduction.
Merci beaucoup.
Tant de compliments, ça fait plaisir. Écoutez,
c'est pas souvent.
Après le week-end un peu morose, voilà, ça fait plaisir.
Merci. Je vous brosse tous les ansatz du poil après ce match catastrophique du 15 de France, mais on aura évidemment le temps d'en parler. On va commencer avec les tops et les flops de l'équipe du jour, aussi divers que variés. Préparez-vous aussi pour un entretien où la concentration et la force seront les atouts importants avec un entretien olympique avec monsieur Arnaud Gisquet, président du Toulouse Altero Club. Bonjour et bienvenue.
Et bonjour, merci de m'accueillir.
Voilà, concentration, force, les atouts pour l'haltérophilie.
C'est le minimum.
Voilà, c'est le minimum. C'est le minimum. Et puis on verra aussi format, catégorie, on parlera du club évidemment dans la Villeroise. Ce sera dans le face-à-face. Les notifs de l'actu aussi sont de retour, on abordera rapidement plein d'événements qui sont passés la semaine dernière. L'équipe de France est-elle malade après une victoire discutable face à l'Écosse et un nul face à une belle équipe italienne qui a un goût de défaite? On en discutera pendant cette émission de comment l'équipe de France va finir ce tournoi des 6 nations qui paraît très compliqué. Et on terminera évidemment avec un pronostic et une analyse de match du week-end. Mais tout de suite, on commence par l'information sportive de la région avec Corinne Saint-Félix. Tout de suite.
L'info sport avec Corinne Saint-Félix.
Les frères Lebrun et Simon Gauzy ont envoyé la France en finale des mondiaux de tennis de table.
Félix Lebrun, Alexis Lebrun et le Toulousain Simon Gauzy se sont imposés face à Taïwan 3-1 samedi et ont disputé la finale des championnats du monde par équipe. L'un des exploits est à mettre au crédit de Simon Gauzy, numéro 30 mondial, face à Cao Changjui, numéro 31. Le Français n'a jamais laissé respirer son adversaire en s'imposant nettement en 3 manches, 11-5, 11-7, 11-6 pour permettre à son équipe de mener 2 rencontres à 1. L'équipe de France n'a pas démérité mais s'est logiquement inclinée contre la Chine 3-0 hier en finale des mondiaux par équipe.
Antoine Dupont termine son premier tournoi avec l'équipe de France de rugby à 7 en petite finale contre les États-Unis.
Contre les Américains, le joueur du Stade Toulousain a d'abord connu un début de match mitigé dans la nuit de dimanche à lundi. Titularisé, il s'est rendu coupable d'un en avant synonyme de carton jaune et d'une exclusion de 2 minutes durant lesquelles ses coéquipiers ont encaissé 2 essais. Mais le Toulousain s'est ensuite rattrapé en offrant 2 essais à Théo Forner et Aaron Grandidier, puis en aplantissant lui-même le ballon dans l'embut.
En top 14, Toulouse s'est imposé 37-33 à Clermont hier.
Le Stade Toulousain a suggéré la SM Clermont en pleine période de doublon. Le carton rouge dans les 10 premières minutes a obligé les jaunards à jouer à 14 pour le reste de la rencontre. Prochain match pour Toulouse, toujours dauphin du Stade français en tête du top 14 contre Castres 3e, ce sera samedi à 15h.
Toujours en top 14, Pau s'est lui aussi imposé face au rouge et noir du RCT.
8 jours après sa démonstration de force défensive à Bordeaux, la section a conservé le même fil directeur pour aligner un second succès de rang samedi au Hameau face à Toulon. Victoire 17-9. Ce succès permet à Pau de conserver sa place dans le top 6.
En foot, le Toulouse FC renverse le LOSC 3-1 en Ligue 1.
Éliminé de la Ligue Europa par Benfica en dépit d'un match solide jeudi soldé par un match nul 0-0, le Toulouse Football Club s'extirpe du bas du tableau après sa victoire sur le LOSC 3-1 hier. À l'aube de cette 23e journée, le TFC, 14e et 23 points, restait sur une improbable série en championnat. 3 victoires de suite à l'extérieur, annihilées par 3 défaites consécutives au Stadium.
Du ballon rond, mais du basket cette fois-ci avec le TGB qui se rapproche des playoffs.
Le palais des sports de Tarbes a vibré samedi devant les assauts du Tarbes Jesp Bigorre qui s'est imposé face à l'équipe de Landerneau. Une victoire importante pour les Tarbaises qui, après une défaite face à Basketland, devaient rapidement rebondir pour maintenir leur cap vers les playoffs. Le TGB a donc battu Landerneau Bretagne Basket 69-59. Prochain match contre les Flammes Carolo.
Et pour terminer, pour la troisième année consécutive, Perrine Lafont organisait un winter camp dans la station des Monts d'Olmes en Ariège.
Oui, la championne de ski de Bosse se consacre en ce moment aux entraînements et reprendra la compétition en 2025 pour les championnats du monde. Mais la championne olympique et quintuple médaillée d'or aux championnats du monde n'oublie pas pour autant les Monts d'Olmes, sa station natale de l'Ariège, où chaque saison elle organise son winter camp, l'occasion de transmettre sa passion aux enfants. À 25 ans, la championne olympique, 5 fois championne du monde, a savouré ces moments de partage.
Et tout de suite, on retrouve les tops et les flops de l'équipe.
Les tops et les flops.
Et on va commencer par Corentin. Voilà, on bouscule les habitudes. Corentin, qu'est-ce qui vous a marqué la semaine dernière ?
Alors, on va commencer avec un petit peu de 6 nations. Et alors, un top dans le 6 nations, vous ne serez pas étonné si ce n'est pas l'équipe de France. Samedi après-midi, dans un stade Murrayfield qui était plein à craquer, et après un Flower of Scotland à vous coller des frissons, eh bien, on a eu le droit à un très bon match entre l'Écosse et l'Angleterre qui s'affrontaient dans le cadre de la Calcutta Cup. Donc, c'est un trophée, certes, un petit peu symbolique. C'est surtout le trophée le plus ancien de l'histoire du rugby. Alors, c'était un match qui était parfois brouillon et parfois brillant, mais on a quand même eu le droit à un super triplé de Van der Merwe qui a bien aidé toute son équipe afin de s'imposer 30-21. Donc voilà, un match intéressant avec une belle ambiance. Et au classement, les Écossais, mine de rien, sont deuxièmes derrière l'intouchable Irlande. Et puis en flop, on va parler un petit peu d'organisation pour le sport féminin. Alors, en marge du match France-Allemagne qui se jouait dans le cadre de la Ligue des Nations, c'était les demi-finales, l'équipe de France recevait les Allemandes à Lyon. Et puis, Amandine Henry, l'une des têtes d'affiche des Bleus, a poussé un coup de gueule. La raison, l'organisation du match de vendredi soir à Lyon. Et au même moment, eh bien, l'Olympique Lyonnais jouait à Metz pour le compte de la Ligue 1. Donc deux matchs avec en plus la ville qui concerne le club plus le stade qui reçoit. Donc c'était un petit peu compliqué en termes d'organisation et forcément c'est des événements qui se font concurrence. Donc encore une très bonne idée des organisateurs. Les Bleus se sont quand même imposés 2-1. Elles se sont qualifiées pour la finale et elles joueront donc face à la meilleure nation mondiale, l'Espagne. Point positif dans tout ça, W9 a quand même bousculé sa programmation afin de diffuser le match des Bleus en clair, peut-être celui de leur premier titre qu'on attend depuis longtemps.
Voilà, ce sera une affaire à suivre et je suis sûr qu'on en reparlera. Coraline, vous, qu'est-ce qui vous a marqué ? Merci Corentin.
Alors moi ça va être très, très rugby mes top flops.
Quel suspense.
Bah oui, mais la section fait un bon début de saison quand même, faut le reconnaître.
C'est vrai.
Après un déplacement victorieux à Bordeaux le week-end dernier, les Verts et Blancs se sont une nouvelle fois illustrés ce week-end face à Toulon. 17-9, comme à Bordeaux, la section a tenu une défense solide. Et de belles initiatives comme pour le premier essai sur interception de Luke Whitelock. La section fait plaisir à voir cette saison, parfois un peu irrégulière dans ses résultats. Mais je me surprends à rêver d'un top 6 cette année où le championnat est particulièrement très disputé. Prochain match à Débernay samedi face au Stade français. Et mon flop, ça sera pour l'agression d'un jeune arbitre de rugby. Dimanche 18 février se jouait un match de régional dans le Var entre le Lasse et le Bossé. L'arbitre Simon Lioré, 19 ans, s'est fait agresser. Un coup de poing par derrière, décroché par un pilier qu'il venait d'expulser. Le courage, ça ne s'invente pas. Le jeune homme a été KO quelques minutes, mais va bien à présent et souhaite continuer d'arbitrer. Bien entendu, on peut ne pas être d'accord avec la décision de l'arbitre, mais je regrette de voir de plus en plus de comportements parfois très hostiles envers le corps arbitral, que ce soit des insultes ou bien des menaces, surtout émises d'ailleurs depuis les tribunes.
Voilà, ça fait réfléchir et je suis persuadé que déjà devant notre télé, on a déjà eu quelques mots. N'est-ce pas, Erwan ?
Bah oui, mais bon, c'est vrai que c'est toujours plus facile quand on n'est pas en face. C'est pas forcément une raison de venir insulter ou quoi, mais je pense que ça, on peut ne pas être d'accord.
Mais il y a une façon de le dire.
Il y a une façon de le dire. Il y a aussi une réflexion à avoir avant. On tourne cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut faire.
Et Corentin qui est arbitre, vous l'avez appris comment cette nouvelle ?
Moi, je l'ai appris via les réseaux sociaux parce que je suis très ami avec quelqu'un qui est arbitre de rugby et qui avait partagé ça sur ses réseaux sociaux, cette nouvelle. Donc, j'étais quand même attristé, mais bon, j'espère surtout que voilà, la sanction va être sévère et que ça va passer l'envie à certains de ne serait-ce que essayer de penser à commettre un geste comme celui-là sur un terrain, quel que soit le sport.
Le club l'a déjà viré de ses effectifs, donc voilà.
Très bien. Eh bien, une première chose de faite. Maintenant, on attend la suite.
Exact.
Parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête là. On enchaîne avec Julien, votre top et votre flop.
Bah, écoutez, j'étais obligé de partir du coup sur l'équipe de France de tennis de table, donc aux Mondiaux par équipe en Corée du Sud. Bah, franchement, la prestation est quand même très folle parce qu'il faut savoir que ça faisait 27 ans que la France s'était pas hissée jusqu'en finale. Et de quelle manière surtout, parce qu'ils ont sorti en quart de finale des Portugais qui ont été très accrocheurs depuis le début, mais surtout en demi-finale le Taïwan qui faisait, bon, derrière la Chine, mais qui faisait quand même partie des nombreux favoris, et ils les ont éliminés, mais avec une excellente manière. Et en finale, bien sûr, on était obligé d'y croire, mais bon, en face, quand même, ils sont tenants du titre depuis 2001, ça faisait 10 fois, donc là maintenant c'est la 11e. Mais en finale, bon, malgré le score lourd, surtout Alexis Lebrun, qui a quand même eu une balle de match face au premier mondial, donc franchement, chapeau. Et à 5 mois des Jeux Olympiques, c'est quand même de très bon augure, et pourquoi pas aller chercher une petite médaille.
Ça met fin à l'hégémonie chinoise sur le tennis de table. C'est bien, ça fait plaisir.
On espère. Mais ensuite, en flop, je suis parti sur du rugby moi aussi, et voilà, donc plutôt sur le Racing 92, qui donc ce week-end face au Stade Français a enchaîné sa 4e défaite et dont la 3e à domicile. Donc faut savoir qu'il y a 3 journées, ils étaient même premiers. Là, ils sont descendus 6e et là encore une fois ils avaient l'occasion d'essayer d'un peu de briser cette mauvaise dynamique en plus à domicile face au rival, le Stade Français, leader. Et ça, ils ont pas du tout été au rendez-vous, ils ont été complètement absents des débats pendant la première mi-temps et c'est catastrophique. Et c'est Et le prochain match, ils se déplacent à Bordeaux et ils sont 6e et il y a de grands.
Ça sent le sapin.
ça a l'air assez compliqué. Et une nouvelle défaite vraiment condamnerait l'équipe et vraiment sortirait du top 6. Après, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Ils ont pas mal d'absents, notamment au poste de demi de mêlée. Mais n'empêche que cette équipe manque d'agressivité et de constance et ça se voit. Et il va falloir redresser la barre assez vite.
Peut-être que Pau va prendre la place du Racing 92 en phase finale.
Eh ben j'aimerais bien moi.
Si ça arrive, on va avoir une Coraline de folie.
Déchaînée, vraiment. Vous me tiendrez. Déjà, vous ne me tenez plus pendant les musiques, mais alors là, ça sera pas que pendant les musiques.
Ça va être catastrophique. Merci Julien, et on termine par vous et Erwan. Qu'est-ce qui vous a marqué?
Mais au début, je voulais parler de Antoine Dupont et de son passage à 7, mais je vois que tout le monde a un peu appris du rugby. On entend du rugby, donc je vais changer. Et je réfléchissais à ce que je pouvais vous dire et je voulais mettre à l'honneur les Indians de Toulouse, donc le groupe d'ultra du TFC, qui ont déjà, jeudi, mis une super ambiance dans le stade. Alors bon, petit point noir, les feux d'artifice qui vont valoir une très belle amende, pense, au club. C'était voilà, il y avait vraiment une ambiance des grands soirs qui était absolument phénoménale. Je peux en parler parce que du coup, j'étais dans le virage avec les ultras justement. Et sans en être un, mais voilà, le virage est quand même ouvert à tout supporter du TFC. Et ils ont réussi à mettre une ambiance absolument folle pendant 80 minutes, qui a en plus été suivie par le stade. Et c'est une ambiance qui a été réitérée ce week-end, donc contre Lille, avec le score qui était un peu inattendu, faut le dire, une victoire 3-1 du TFC contre Lille. Mais aussi avec un très beau moment, qui a d'ailleurs été salué par le joueur concerné, avec le retour de Bafodé Diakité à Toulouse, et qui a été chaudement applaudi au moment de sa sortie. Il l'a dit lors d'une interview, que ça l'avait énormément touché, le fait que les supporters du TFC se souviennent de lui et qu'il lui fasse remarquer. De la même manière, quand Dessler et Diarra sont sortis lors du match contre le Benfica, directement les supporters ont lancé une ovation pour les deux joueurs à la fin du match. Pour Siro, en ce moment, il y a régulièrement des ovations. Donc voilà, c'est très beau de voir cette ferveur venir dans le stade de foot quand on sait que pendant 10 ans, ça a été très très compliqué quand même au stadium. Et là, vraiment se dire que ça se pérennise et que même dans les, entre guillemets, mauvais moments, ils sont toujours là pour venir relancer dès qu'il y a un petit peu des bonnes nouvelles, comme ce 3-1, ça fait plaisir.
Il faut que ça dure maintenant.
Exactement.
Et je vous invite d'ailleurs à aller voir les photos du Tifo
ouais.
de jeudi, qui était magnifique. Exactement.
Violet fait. Et doré ouais. avec le taureau de Saint-Cernin.
On ouais. parle souvent de l'OM, etc. Mais celui du TFC là, jeudi, était magnifique.
Très beau. Et avec un petit Tifo qui a eu lieu il y a un an, je crois, avec même les mémés, même la castagne, ouais, avec Nougaro et avec vrai. Une mamie dessus qui était très très bien aussi.
Ouais, ils ont de l'imagination. Nos supporters ont du talent. Et votre flop ?
Et pour mon flop, je voulais parler de la hauteur des plaquages, mais je vais même rajouter certains déblayages que l'on peut voir au rugby. C'est pas normal de voir Jonathan Danti venir plaquer Juan Ignacio Brex totalement debout. Il n'y a vraiment aucun effort fait pour se baisser. On est presque en train de se dire que la volonté d'être agressif et offensif sur les plaquages, elle en vient à oublier les bases qui demandent de venir plaquer plus bas. Alors oui, effectivement, quand on vient plaquer haut, ça peut faire exploser le ballon, ça va marquer l'adversaire et ça risque de faire un plaquage offensif qui va permettre de faire avancer la ligne défensive. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il y a vraiment de plus en plus de plaquages vraiment dangereux et d'autant plus aussi de plaquages qui sont signalés par les arbitres parce que les règles s'adaptent et maintenant un choc tête contre tête, c'est rouge quasiment à chaque fois, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Je vous laisse revoir le plaquage qu'avait fait Courtney Loves, qui d'ailleurs va arriver à Brive, sur Jules Plisson il y a quelques années et qui était totalement légal à l'époque. Et maintenant, s'il le passe, bon, je pense qu'il est banni pendant plusieurs mois des circuits. Voilà, c'est pas normal qu'on puisse voir des choses comme ça. C'est très dangereux. Et aussi, ce qui est très dangereux, mais dont on parle moins et sur lequel il faudra se pencher, c'est les déblayages directement dans les articulations. En début de saison, il y avait eu les déblayages sur Jefferson Poirot, qui était au soutien dans un ruck. Et où l'adversaire, il me semble que c'était Boris Palu du Racing, était directement venu sur le côté dans son genou. Bah, après, il n'y a pas 8000 solutions. Un genou, ça se plie d'avant en arrière. Si vous venez dans le côté, bah, c'est une articulation qui est fragile. Forcément, ça blesse. Jefferson Poirot avait été blessé. Rebelote, dimanche soir, à Clermont, avec le pilier Ojovan, le pilier moldave, qui s'est lancé dans le genou de Alban Placine.
Et, carton rouge.
Carton rouge. Et Alban Placine qui sort. Et c'est un peu ce qui s'est passé, alors bon, c'était pas dans un ruck, dans un soutien, mais un peu ce qui s'est passé aussi avec Jalibert. On arrive directement sur le côté de l'articulation. Bon, c'était un peu plus dans le mouvement, donc voilà, pour le coup, c'est un peu plus un fait de jeu qu'autre chose. Mais il faut vraiment faire attention, recentrer sur des plaquages efficaces. Et c'est dommage parce que les bases du rugby, ce qu'on apprend quand on est petit, c'est de bien plaquer le plus bas possible, si possible au tibia, d'aller chercher le bas des jambes. Bon, après, c'est compliqué vu les différences de gabarit. Mais je pense qu'il faut essayer de se recentrer dessus pour la santé des joueurs.
Et d'ailleurs, Jalibert blessé un bon moment.
Voilà. 6 semaines. Voilà. Beaucoup moins que ce qu'on aurait pu imaginer au début.
C'est déjà assez compliqué pour lui.
Il pourrait revenir pour le 8e contre le Saracens, qui sont en pile 6 semaines.
Et bien voilà. Ça risque d'être compliqué pour un retour aussi rapide. Bon, et bien merci beaucoup pour ces choix de la semaine passée. Tout de suite, il est l'heure du face-à-face.
Esprit Sport, le face-à-face.
Arnaud Gisquet, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes le président du Toulouse Altero Club. Vous allez y aller juste après l'émission, d'ailleurs, vous allez vous occuper du club. Alors, on va commencer tout de suite ce face-à-face olympique. Tout de suite, l'haltérophilie, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'haltérophilie, c'est un sport olympique assez vieux, puisqu'on le retrouve dans toute l'histoire moderne des Jeux. C'est un sport où on pratique l'arraché et l'épaule jetée, donc qui sont deux mouvements différents, deux épreuves. Qui se pratique, alors l'arraché ça se pratique en un temps, donc barre du sol qu'on amène au-dessus de la tête, en essayant d'imprégner un maximum de vitesse, avec une maîtrise technique parfaite pour réussir la charge, et qui est un mouvement où le mental prend le dessus, on va dire, sur la force, hein, puisque c'est souvent on dit en gros, un arraché réussi c'est 80% de mental, aujourd'hui c'est pas de la force, voilà. Donc ça fait toute la différence. Et l'épaule jetée, c'est un mouvement qui a un peu plus de force, du coup, où on va lever des charges plus lourdes, mais qui se fait en deux temps, avec la barre qui est amenée du sol sur les épaules et qui est ensuite jetée.
D'accord.
Sur différentes techniques, hein, il y a plusieurs façons de faire. Mais qui est un mouvement qui est beaucoup plus de force ou de puissance que ne l'est l'arraché.
Comment on peut faire pour faire ces deux... On voit que c'est des phases, des épreuves très courtes. Au final, ça ne dure pas très longtemps. Comment on se prépare pour faire ce type d'épreuve ?
Alors, en gros, il y a beaucoup d'entraînement. L'objectif pour arriver à participer à ces épreuves en compétition, c'est d'abord l'entraînement, de répéter énormément les gestes, hein, pour arriver à une perfection technique qui va permettre de réussir des charges très lourdes. Donc on s'entraîne beaucoup, ouais, entre 3 et 5 fois par semaine pour les athlètes, on va dire, de niveau jusqu'à national, et après 2 fois par jour pour les athlètes de trop niveau, voire plus, hein, ils peuvent s'entraîner même le week-end. La préparation se fait en plusieurs étapes. Pour des athlètes qui vont faire les Jeux Olympiques, ça va être des grosses périodes de préparation physique, suivies de périodes de perfectionnement et des périodes d'affûtage pour les amener aux Jeux Olympiques, où ils vont vraiment travailler la répétition de charges très lourdes et beaucoup travailler sur le mental pour se mettre dans les meilleures conditions pour réussir les charges les plus, voilà, les plus élevées lors de la compétition, sachant qu'il y a, très peu d'essais, donc il faut réussir du premier.
Il y a combien d'essais? 3.
Les 3 essais à l'arracher, 3 à l'épaule jetée. Donc ça va très vite.
Ça laisse très peu de place à l'erreur. Ouais. La répétition des gestes sur des charges lourdes. Comment on n'a pas d'appréhension de la blessure?
Alors, c'est un sport où il y a peu de blessures, en tout cas peu de blessures graves. Par contre, la répétition des charges peut amener des tendinites, des choses comme ça. Et donc, c'est des choses qui vont arriver souvent sur des athlètes plutôt débutants, on peut expérimenter, et petit à petit, en fait, en apprenant des blessures qui arrivent, on met en place les exercices de prophylaxie nécessaires au renforcement musculaire pour pas que ça se reproduise. Donc, finalement, avec le temps, il y a l'appréhension, elle arrive pas vraiment. Les petites blessures arrivent, mais finalement, ça se corrige avec le temps, et puis avec l'habitude, on se blesse très peu, en fait.
Renforcement musculaire, tout ça,
ouais,
ça.
C'est énormément de renforcement musculaire qui est primordial dans ces.
Pour tout ce qui est ligaments et articulations.
Très peu de blessures sur les ligaments et les articulations. Hein, c'est vraiment des. Alors, sur articulations, si, parce que c'est des blessures tendineuses, mais ce sont des blessures peu graves.
Comment. Quand on est haltérophile, aujourd'hui, en France, à peu près pro, est-ce qu'on vit de ce sport ou pas du tout?
Bon, alors.
On pense avoir la réponse.
Alors.
Oui.
Alors, je vais dire oui pour les athlètes de très haut niveau et qui vont préparer
les
Jeux,
faire les JO.
Parce que la fédération met en place des partenariats avec des structures privées, des entreprises ou des collectivités pour que ces athlètes aient des emplois à plein temps et un temps détaché pour s'entraîner. Il y en a beaucoup qui sont à l'armée, en gendarmerie, chez NC, EDF, toutes ces choses-là. Donc, je dirais oui parce que la fédération fait l'effort, mais c'est un travail assez récent de la fédération. Hein. Il y a 2 Olympiades, c'était pas le cas, ils étaient tous amateurs quasiment.
Ah oui, donc c'est considéré comme professionnel quand on est à haut niveau, mais depuis très récemment.
Ça fait très peu de temps, effectivement, qu'on fait l'effort pour nos athlètes en France de leur proposer d'avoir un vrai travail et de pouvoir vivre correctement.
L'haltérophilie en France, comment on peut le situer en termes de popularité?
Alors, c'est un sport qui connaît une renaissance assez forte ces dernières années. Nous, on le voit au club, hein. C'est assez flagrant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une espèce de médiatisation de par le CrossFit. Alors, c'est pas le CrossFit qui nous a ramené des adhérents, mais ça a donné une médiatisation sur les réseaux sociaux qu'on n'avait pas. L'haltérophilie, ça restait très, très entre nous, entre soi.
C'est très impressionnant, en plus, surtout sur les réseaux sociaux, de voir des charges.
Et donc ça, forcément, ça attire du monde. Mais du coup, ça a eu un effet très bénéfique, hein, puisqu'on a, nous, en haltéro, on est passé de, je vais vous dire, un chiffre pas tout à fait précis, mais en 2010-11, quand j'ai commencé à m'occuper du club, à maintenant, on est passé d'une dizaine d'athlètes à une centaine. Voilà.
Ah oui.
Donc on a fait x10, alors pas tous en compétition. Il y en a qui font du sport pour le loisir, ce qui est nouveau parce que ça n'existait pas avant. Mais on a une bonne quarantaine de gens qui viennent pour le loisir. Pour l'haltérophilie spécifiquement. Après, on a des activités loisirs autres, mais voilà.
Donc voilà, on peut être Erwan, peut être haltérophile,
tout à fait. On a
par loisir.
Vraiment tous les gabarits.
Pas forcément. Justement, le gabarit, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité ou compétence pour s'initier à l'haltérophilie? Quelqu'un qui hésite à aller faire de l'haltérophilie, je vois Erwan rigoler, est-ce que Erwan peut aller faire de l'haltérophilie demain?
J'ai prévenu la semaine dernière, hein, qui m'épargne.
J'ai prévenu que là, j'allais
rien. Chez nous, il y en a vraiment pour tout le monde. Alors déjà, on peut commencer très jeune.
On n'est pas obligé de commencer à 100 kilos directement.
Non, mais on prend des gamins qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, donc ils commencent pas avec 100 kilos, ils ont des barres en plastique et des poids en plastique. Voilà.
C'est bon, Erwan.
Après, plus on commence jeune, plus c'est facile l'apprentissage. Plus on commence tard, plus il y a des problématiques qui vont être. Le facteur limitant, en gros, c'est pas la force, c'est pas le gabarit, puisqu'il y en a pour tout le monde, c'est la souplesse, notamment, la mobilité. Et souvent, les gens qui commencent tard, à trentaine, après, c'est vraiment le facteur qui fait qu'ils n'y arrivent pas. Après, les gens qui ont un peu de mobilité et qui sont souples peuvent commencer à 20, 30, 40 ans, ils y arrivent. Tout le monde peut pratiquer, quel que soit vraiment le gabarit, la catégorie de poids.
Donc finalement, quelqu'un qui essaye, ou qui peut même peut-être par loisir, peut s'essayer sur de petites charges, juste pour essayer, et puis peut-être après rester sur de petites charges, mais il y a cette volonté de faire plus à chaque fois. Donc
il y a toujours cette volonté, donc les gens qui débutent pour se défouler un petit peu, ils finissent par essayer de faire toujours plus.
C'est
inévitable. On se dit,
ouais,
en fait,
non, je vais me limiter à ça, et puis au final, voilà, ça veut toujours plus.
Ça tient 2-3 semaines, hein, et puis, après ils essayent tous de faire toujours plus.
Ouais. Une fois qu'on est piqué, ça part tout seul.
C'est ça.
Justement, vous nous avez parlé des compétitions. Les compétitions, alors je vais dire amateur, mais au niveau régional ou en France, comment ça se déroule? Comment ça se passe? Parce que étant donné qu'il n'y a pas énormément de licenciés, comment c'est prévu tout?
Alors,
ça
on a deux types de compétitions, des compétitions par équipe, pour un sport individuel, ça, je pense que vous ne savez pas forcément, hein, mais, et des compétitions individuelles. En gros, comment ça s'organise? Nous, les compétitions sur la région, elles sont sur une journée, voire deux jours, et on regroupe en fait toutes les catégories de poids et d'âge, souvent, sur même lieu d'implantation, ou sur plusieurs implantations, mais sur une même journée, quand c'est des compétitions individuelles. Et quand c'est des compétitions par équipe, on les organise sur plusieurs implantations, parce que les compétitions d'haltérophilie, en fait, ça peut être très long. Ça paraît pas, on a que 3 essais, mais quand vous cumulez les athlètes avec les temps d'attente entre les essais, c'est très long. Du coup, on est obligé d'avoir une organisation un peu sur 1 à 2 jours et sur plusieurs implantations.
Ces temps d'attente, comment vous les gérez entre le moment, entre deux... pas de charge, mais deux essais.
Enfin, deux essais, ouais. Ça va dépendre du...
Est-ce que vous pouvez vous relâcher ou si on s'entraîne peut-être sur...
Ça dépend si l'athlète va repasser de suite, parce que les charges montent progressivement, ou s'il a beaucoup d'attentes. Ça peut être le cas, notamment au niveau national, quand les plateaux sont très denses, dans les mêmes catégories de poids, avec les mêmes charges, on peut avoir 10, un quart d'heure, 20 minutes d'attente. Donc il faut se réchauffer, ou se maintenir échauffé. Donc c'est très usant nerveusement, puisqu'il faut répéter des charges lourdes.
C'est pour ça que vous avez parlé du mental, là, pendant 15 minutes d'attente, ça me passe des choses. Quoi.
Et là, ça pique, ouais, ça pique. Clairement, il y a le physique, il y a le mental, puis il y a le physique aussi en fin de journée. Ouais.
Ça doit faire de longues journées.
Qui est rude.
Et du coup, pour le déroulement d'une compétition nationale quand il y a beaucoup de monde, comment on juge ces performances d'athlètes sur tous les poids, tous les niveaux?
Bah, en gros, il y a une pesée, vu que c'est des catégories de poids, vous présentez votre pesée, et à partir du moment où vous êtes dans la catégorie de poids, vous n'avez que des adversaires qui sont dans cette catégorie-là. Donc, chacun annonce un total, enfin des barres de départ de compétition d'arraché et épaulé jeté. Et ensuite, ils se départagent forcément aux charges, en montant progressivement jusqu'au meilleur.
Ça en arrive en disant, moi je fais 150 kilos, et puis après ça...
Et puis après, petit à petit, ça monte. Vu que chacun a 3 essais, on commence en général avec un essai un peu léger, puis on monte progressivement. Et après, il y a toute une sorte de stratégie très fine et assez pointue entre les coachs, une espèce de guerre nerveuse mentale, puisqu'on peut changer plusieurs fois pour un même essai de charge. Et monter kilo par kilo, par 2 kilos, donc on fait des petites blagues aux autres coachs, on essaye de... Quand vous montez de 2 kilos sur une compète où c'est serré, ben peut-être que l'athlète qui passait dans un quart d'heure, il se retrouve à passer de suite. Donc,
ça peut se jouer à 1 kilo, 1 kilo et demi, 2 kilos de temps en temps.
Ça se joue au kilo souvent, ouais.
Donc c'est assez spécifique, hein, parce qu'à 1 kilo près, on se dit pas, là, tout de suite, là, entre nous, c'est une carafe d'eau, 1 kilo, donc on n'imagine pas.
C'est une carafe d'eau, mais c'est le premier qui score un total qui est classé dans l'autre, donc il faut bien choisir les charges pour arriver à prendre le dessus sur les adversaires le plus tôt possible. Quoi.
Et les changements de charge, ça s'applique à l'arraché et à l'autre mouvement aussi
En gros, à chaque essai, vous pouvez annoncer une barre et rechanger 2 fois avant que la tête passe. Donc ça peut vraiment vous faire repasser de suite ou repasser dans un quart d'heure et puis piéger les adversaires.
Comment ça se passe pour maintenant le niveau olympique? Est-ce qu'il y a des phases de poules, des phases de qualification? Est-ce que vous avez déjà pu assister peut-être à un événement aussi énorme que les épreuves d'haltérophilie?
Alors, nous, les dernières grosses compétitions internationales qu'on a organisées en France, c'était à Paris en 2011, les champions du monde. Moi, j'étais bénévole, à l'époque.
Ça va être une sacrée expérience.
C'était une sacrée expérience. Il y avait plus de 700 athlètes, donc c'était une sacrée compétition. Une des plus grosses
700
compétitions.
700 sur 3 jours, vous nous avez dit, 700, ou c'était
non, là, c'était sur une semaine, mais sur 9 jours. C'était les plus gros champions du monde qu'il y ait eu, en gros.
D'où la popularité du sport qui grandit.
Ça va attirer beaucoup de monde. Et puis, on avait fait effectivement ça le comble au niveau du public. Ça a été une belle compétition. Après, en France, on n'a pas réorganisé beaucoup. Donc, après, moi, personnellement, j'ai pas eu l'occasion d'assister à des gros événements. J'ai été voir des compétitions internationales à l'étranger, mais sans en participer. En ce qui concerne les qualifications pour les Jeux Olympiques, c'est assez particulier. C'est un système de qualification où les athlètes sont obligés de participer à certaines compétitions comme les champions du monde ou les championnats d'Europe. Obligé, et à des tournois mineurs, donc à 5 tournois mineurs et 3 compétitions majeures pour se qualifier. Donc il n'y a pas vraiment de... Enfin, les phases de poule, c'est en amont sur 2 saisons, en fait, sur 2 années.
Sur 2 saisons?
Ouais, c'est sur... il y a cette année, l'année d'avant, pour se qualifier, et donc le but des athlètes, c'est de se classer. Alors, pas le meilleur total, pas le meilleur arraché pour les jeter, mais ce qu'on appelle l'indice IWF, qui est un indice qui compare les athlètes au poids de corps. Donc en fait, le total est multiplié par un coefficient, donc ça fait, voilà, ça fait ce total IWF. Et donc tous les athlètes se classent, quelle que soit leur catégorie, dans une ranking list. Et ensuite, on a un nombre max d'athlètes par catégorie, donc c'est 12 athlètes qui seront qualifiés dans chaque catégorie, donc il y a 5 catégories de poids chez les hommes et 5 catégories de poids chez les femmes. Donc c'est des calculs assez compliqués. Ça, des fois,
comme
ça
quoi, il ne suffit pas que voilà. De porter du poids. Il y a aussi beaucoup de calculs à faire.
Hein. Beaucoup de calculs en sur les jours de compétition, puisque à 0,1 point, donc c'est même pas 100 grammes, ça peut, parce que le monsieur était au poids de corps à
ah oui, c'est
50 grammes plus léger que
moi. C'est précis, presque scientifique.
Il peut perdre sa qualification. Quoi. C'est, voilà. Les Français ont quand même de la chance, c'est qu'on a quand même deux quotas, hommes et femmes, puisqu'on est pays organisateur. Donc ça...
Justement, les Français, on va être performants pour ces JO. Est-ce qu'on a des chances de médailles?
Alors chez les femmes,
là, va falloir se mouiller là.
Chez les femmes, je pense que Marie-Jo Fegué a des chances de médaille.
Très bien.
Donc catégorie 76 kilos. Chez les hommes, ça va être plus compliqué. On pense à Romain Manouchène, qui est le numéro 1 français, qui peut performer, performe beaucoup en ce moment, donc on espère qu'il sera vraiment au top pour les jeux. Pour les autres, ça sera plus compliqué, mais voilà, on sait qu'il y en aura au moins deux autres qui participeront du fait d'avoir les quotas. Et puis, on a quelques-uns qui sont bien placés aussi pour intégrer peut-être la troisième place qui est disponible par pays. Donc déjà, si on avait six athlètes, ça serait magnifique. Après, si on a une médaille, c'est encore mieux. La dernière remonte de 2008, c'était Venceslas Dabaya à l'époque.
2008
à Pékin. Ouais. Ouais. On a du mal à aller chercher les médailles sur les compétitions internationales. C'était 2008 et avant, c'était 78. Donc... C'est pas le sport qui rapporte le plus de médailles à la France.
Mais on espère que, étant à domicile, il va y en avoir une.
On espère, oui.
Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour peut-être aller vous voir, aller jeter un coup d'œil sur qu'est-ce qu'est l'haltérophilie? Parce que vous avez vu, tout le monde vous a écouté religieusement, là, autour de moi. Et ils sont tous. Donc là, s'il n'y en a pas un qui va pas à la salle après, n'est-ce pas, Erwan?
Oui.
Pour faire un essai, au moins, ça serait.
Vous pouvez tous venir. En plus, la salle n'est pas très loin. Hein.
Oui, c'est vrai que des studios.
Au gymnase Fabre, avenue de la Garonnette. Donc juste de l'autre côté de la Garonne. Donc on est ouvert après toute la semaine, de 16h à 20h30, et puis après le matin de 10 à 14h.
Si vous avez des réseaux sociaux, donc, on peut vous retrouver, voir peut-être.
Instagram, ouais, très actif. Donc vous pouvez venir, essayer, venir voir. Et puis après, s'il y en a qui veulent voir des compétitions, on organise une compétition par équipe ce week-end. Donc, ça sera au gymnase de Gatel. Pour l'occasion, on déménage le matériel, ça fait un peu de logistique.
Ah oui, et en plus de ça, la logistique aussi, oui.
Notre gymnase est trop petit pour faire les compétitions en interne, donc on est obligé de déménager. Peu de poids, de plateau de compétition, ouais, ça, c'est un peu long, ça demande un peu de travail. On a beaucoup de bénévoles, ça se passe assez bien. Quoi.
Très bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Arnaud Gisquet. Je vous rappelle que vous êtes président du Toulouse Haltéro Club. On va vous libérer pour aller vous occuper de votre club et puis on vous retrouve ce week-end.
Eh ben, merci à vous et puis passez samedi si vous voulez.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel.
Voilà, Coraline qui a tout donné sur. On l'a mis. C'est à vous fond. Qui l'avez choisi en plus.
Exactement, bah oui, bien sûr.
Étant donné que vous allez partir pour quelques semaines, on a décidé
vous
de
vous faire
plaisir.
On m'avait accordé ce petit plaisir, tout voilà. à fait.
C'est ça. On aura une autre la semaine prochaine en hommage pour vous, Coraline. tout de suite, on retrouve les notifs. Et alors, très rapidement, la première notification, la saison 6 de Drive to Survive est sortie sur Netflix, saison 6, est-ce qu'on regarde ?
Bien sûr.
Bah, pas, moi je suis pas énormément.
Il n'y a pas un mot, il n'y a que des onomatopées.
Parle en onomatopée, oui, je suis une bande dessinée à moi tout seul. Non, mais moi je suis pas énormément ce genre de série, j'avoue que je préfère toujours le sport au...
À la documentation scénarisée.
Oui, voilà, on va dire à la scénarisation des acteurs du sport.
Oui, c'est vachement musique, quand même. Julien, est-ce qu'on regarde Drive to Survive ?
Alors, pas du tout. Déjà, je ne regarde que très peu la Formule 1 de.
Ah, forcément,
en fait, c'est
parce que
les sports
là,
mécaniques de manière générale, j'ai un peu du mal à accrocher, mais je suis quand même un peu de loin.
Corentin, je sais que vous êtes un aficionados de la F1.
Ah oui, mais absolument pas un aficionados de Drive to Survive. Je regarde pas. Et puis, spoiler pour ceux qui vont regarder, à la fin de la saison, c'est Max Verstappen qui a gagné. Je sais pas ce qu'il veut apprendre de plus. Si ce n'est qu'il y a un gars qui a roulé sur tout un peloton de mecs dans des monoplaces. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire comme reportage.
C'est très bien résumé.
Je pensais pas que c'était aussi virulent, Corentin.
Bah, non, mais il se passe plein d'autres choses.
Ça montre les backstage. Ça montre ce qui se passe derrière. Voilà, non, ça vous intéresse pas ?
Mais c'est justement pour ça que je regarde, parce qu'après, en effet, le suspense, non. On ne
non, parce
pas.
Que de toute façon, la série est diffusée avant le début de la saison d'après.
Eh oui.
Donc c'est un résumé de la saison d'avant. Donc en soi, on sait déjà qui a gagné.
Exactement.
Voilà, bon, j'ai l'impression qu'on regardera pas, donc on zappe. Hop, nouvelle notification, l'équipe de France de tennis. Julien nous en a parlé de tennis de table. Première médaille depuis 97. Les féminines aussi ont remporté une médaille. Troisième en bronze, il me semble. Bon augure pour les JO. Je tiens à préciser qu'on va recevoir un intervenant du tennis de table au mois de mars. Donc voilà, ce sera le moment d'en parler. Simon Gauzy, Toulousain, a eu aussi sa médaille. Voilà, les frères Lebrun, les petits génies du tennis de table.
Il va falloir les suivre, je pense, d'ici quelques années, parce que vraiment, je pense que... Alors, peut-être pas pour 2024, mais je pense que pour 2028 à Los Angeles, il va vraiment venir chatouiller les Chinois. Ouais.
Non, très non. Bien. Eh bien, voilà.
Des pronos engagés.
Oui, ça c'est... Bah, juste, Coraline
ça
est
va,
toujours très
c'est
engagée.
C'est dans 4 ans.
C'est dans 4 ans, on pourra
sortir l'extrait. Juste titre, hein, j'ai envie de dire, quand même, Félix Lebrun, 17 ans à peine, 6e mondial.
C'est jeune. Hein,
il a battu frère, quoi, il y a un peu moins d'un an, je crois, l'actuel premier mondial. Enfin, je veux dire, c'est...
C'est une pépite à surveiller. Un peu le Antoine Dupont du tennis de table.
En quelque sorte.
Voilà. Et surtout se dire que les deux sont extrêmement forts et les deux sont frères. Bon, je sais pas dans quelles conditions vous jouez au tennis de table, mais moi c'était souvent.
Moi j'ai une vidéo sur mon téléphone de Coraline et vous qui étaient en train de jouer au tennis de table.
Non, mais
c'est pas glorieux.
Heureusement qu'on est à la radio et qu'on ne peut pas montrer la vidéo, c'est dommage.
Non,
mais. C'est donc ils ont dû, j'imagine, grandir en jouant ensemble et forcer de constater que les deux sont très bons. Alors je veux pas savoir qui de l'œuf ou la poule est arrivé en premier, a été le meilleur en premier. Mais force est de constater que ils ont grandi dans un environnement qui font que ce sont les ils peuvent potentiellement devenir les meilleurs mondiaux. Mmh. Et en plus, on a un Toulousain qui vient se rajouter au trio. Et ça, bah, c'est que du bonheur.
Voilà. En tout cas, c'est aussi grâce à leur père qui était aussi pongiste.
Mais leur oncle aussi était sportif professionnel. Donc,
ouais, c'est l'oncle, peut-être.
Ouais. Voilà. Oui. Donc, c'est vraiment une famille. C'est un petit peu comme les Noirs, finalement.
Les Tulagi.
Comme les Tulagi, oui, c'est vrai.
Comme les Tulagi. En moins musclé.
De beaux bébés. Notre notif. Voilà. Et les bons débuts d'Antoine Dupont en rugby à 7 qui a fini 3e au tournoi de Vancouver. Alors, c'était très, très, trop tôt les matchs. Est-ce que quelqu'un ici autour de la table ou Corentin à distance, avez-vous regardé un match?
Oui.
Non.
Pas tout à fait.
Oula, c'est-à-dire quoi, ça pas tout à fait?
Oh, j'ai vu 2 minutes. Le match contre la Nouvelle-Zélande.
Après, c'est dur.
Les matchs durent 2 fois 7 minutes. Donc 2 minutes, c'est déjà pas mal.
Ouais. Bon,
même une époque où les finales duraient 2 fois 10 minutes. Et puis ils se sont rendus compte que les gens rendaient l'âme à la fin du match.
Ouais, c'est incroyable.
Moi, je regarde souvent du Seven, j'aime bien. Donc voilà, donc là j'ai regardé, même s'il n'y avait pas eu Dupont, j'aurais regardé. Et Dupont a eu du mal sur le premier match. Et même sur le deuxième, le premier match, il fait aucun plaquage, il fait 2 passes, 1 en avant. donc voilà, il avait un peu de mal à comprendre le rythme.
Mais on voit
qu'il
y a des facilités quand même.
Ouais, parce que comme
sur les raffus, il les met tous.
J'ai pu parler avec Terry Bourraway il y a pas longtemps, qui est donc l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby à 7, et il m'avait dit en général, il y avait un dicton qui disait au sein de l'équipe de France, et même de manière générale sur le circuit mondial, on dit qu'il faut 5 tournois pour qu'une personne s'acclimate au rugby à 7. C'est-à-dire un très bon joueur de rugby, très bon joueur de rugby à 15, il faut qu'il fasse 5 tournois pour voir s'il peut vraiment faire du rugby à 7. Pour Dupont, il m'a dit que 2 tournois ça suffirait. La preuve est de constater que 2 matchs moyens lui ont suffi à être très
c'est
bon
trop
par la suite.
Faux. Antoine Dupont, je pense qu'il est pas nourri comme nous. Corentin, est-ce que vous avez suivi le rugby à 7?
Moi, j'ai suivi. Alors, j'ai regardé surtout des rediffs, et puis surtout, ça permet de voir un petit peu comment Antoine Dupont met à profit ses qualités du 15, parce que finalement, c'est un joueur qui est à l'aise dans les petits espaces pour essayer d'aller se faufiler. Là, quand on lui laisse du terrain, on voit aussi qu'il est capable de développer pas mal de puissance, de vitesse. Donc, non, c'était intéressant. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il vient avec beaucoup d'humilité. Et voilà, il démarre sur le banc. Certes, les Américains en ont fait des caisses quand ils ont annoncé son entrée, etc. C'est assez marrant, mais ce que je trouve intéressant, c'est de suivre sa progression. C'est cool, et voilà, on lui souhaite de réussir dans cette nouvelle discipline.
Voilà, tout va bien pour Antoine Dupont, mais tout de suite, on voit que tout ne va pas du tout bien pour l'équipe de France. L'équipe de France de rugby est-elle malade? C'est le débat du jour. Alors on rappelle les faits, une défaite face à l'Irlande en début du tournoi à Marseille, un match gagné en hochant la tête face à l'Écosse, merci monsieur l'arbitre, un match nul qui aurait pu être bien bien pire, merci la rafale de vent,
merci monsieur l'arbitre encore.
contre l'Italie, donc au final, est-ce que l'équipe de France est malade dans ce tournoi destination? Corentin, est-ce qu'elle est malade, cette équipe de France?
Si vous me permettez une question avant, Jonathan, comment vous faites société? C'est peut-être ça qu'il faut se demander, vu ce que nous annonçait Fabien Galthié en fin de match. Mais oui, cette équipe, elle est bien évidemment malade. On ne la reconnaît pas. Et encore plus qu'on a une échelle de comparaison avec l'Italie, puisqu'on leur a mis une pilule, 60 points à la Coupe du Monde il y a 4 mois.
C'est le pilulier complet.
Et là, ils font match nul chez nous, quoi. Donc c'est catastrophique.
Et puis, ce qui est assez incroyable, c'est que quand on voit sur les dernières années, on passe de victoire contre la Nouvelle-Zélande, 60 points en Italie, match incroyable contre l'Angleterre où on leur met pareil une cartouche à domicile. On gagne la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture de Coupe du Monde, chose qui n'était jamais arrivée pour la Nouvelle-Zélande, une défaite. On perd, compliqué contre l'Afrique du Sud. Et derrière, patatras, tout va mal, et on fait match nul contre l'Italie. Comment on en arrive là, en 2024, à être aussi mauvais? On dirait l'équipe de France d'il y a, 5-6 ans, où maintenant, on se regarde les chaussettes, on ne sait pas quoi faire, il n'y a pas d'inspiration. Alors je veux bien croire qu'il y a 7 joueurs titulaires qui sont absents, un staff qui a grandement changé, mais comment ça se fait?
Je pense que les autres nations ont aussi appris à lire notre jeu, vu qu'on était en haut Ils nous ont beaucoup regardé et beaucoup appris à nous défendre et du coup à bien nous défendre puisqu'on a effectivement une attaque. On l'a vu ne serait-ce que dimanche. Hein, elle était impuissante cette attaque. Donc la technique du jeu de dépossession, on tape au pied pour essayer d'avancer, etc. Enfin. Manifestement, il va falloir changer de technique.
C'est du dépossession au pied. On avait vu avec l'Écosse cette partie de ping-pong au pied qui était ridicule. Ça a duré une bonne grosse minute.
Ah oui,
et
facile.
C'était pif, pof, pif, voilà. Et puis finalement, en fait, ils voulaient pas jouer l'Écosse non plus. Donc,
C'est ça, exactement. Donc on s'est retrouvé avec un Ramos, il me semble, et un Russell qui. Ouais, faisait mumuse et au milieu des joueurs qui bougeaient même plus
ils étaient amorphes au milieu, ne pouvaient plus bouger parce que ils tiraient les coups de pied sans prendre d'élan et étant donné qu'on peut pas bouger avant que la personne ait fait 5 mètres
minimum.
Bah là c'était même pas 1 mètre quoi, c'est vraiment c'est du ping pong rugby. Est-ce que on va sortir les cartes des excuses les unes après les autres? Est-ce que c'est la faute à la Coupe du Monde?
C'est la faute au bleu. Je pense déjà.
Est-ce qu'on peut dire que le traumatisme de la Coupe du Monde est encore là?
Moi, je pense, en tout cas.
Non, pas sûr non plus. Ouais. Bah, ce qui est inquiétant, quand même, c'est que depuis le tournoi et depuis quelques temps, c'est surtout l'indiscipline qui nous.
Ah oui, trois cartons rouges là déjà.
Voilà, qui nous font déjà très mal. Et puis surtout, donc oui, il y a peut-être un peu cet aspect Coupe du Monde qui fait qu'on a. Bah, l'équipe a complètement perdu confiance en elle, on a l'impression. À l'époque, on se rappelle de la tournée de novembre, donc avant la Coupe du Monde. Franchement, cette équipe pouvait nous rassurer en fin de match. Je repense par exemple au match contre l'Australie, où bah, tout était contre nous et on était persuadé qu'on allait pouvoir gagner et c'était exactement ce qui se passait. Donc on a eu pareil contre l'Australie, on a eu contre l'Afrique du Sud lors de cette tournée-là. Enfin, tout semblait que rien pouvait nous arriver. Et là maintenant c'est complètement l'inverse contre.
C'est tout peut arriver.
Ouais, voilà, c'est tout peut arriver et quand on voit contre l'Écosse, ben c'est assez miraculeux. J'allais dire l'Italie aussi. Heureusement que Garbisi a eu la bonne idée de mal placer son ballon sur le tee, mais c'est pour ça que c'est quand même assez inquiétant et ça ressemble un petit peu, on va dire, à l'Angleterre en 2019 qui elle aussi, on dirait qui était intouchable lors de la Coupe du Monde et qui a progressivement chuté, ce qui s'est enlisé dans une terrible dynamique. Et j'ai bien peur qu'on puisse en arriver là aussi. Là, le match contre le Pays de Galles dans 2 semaines, si on joue comme ça, c'est une défaite assurée. Hein. À part si voilà, c'est encore un fait de jeu en notre faveur, mais ça va être compliqué, surtout là-bas en plus.
Surtout là, ouais. En espérant qu'il fasse pas un beau temps gallois. Donc, c'est pas la Coupe du Monde. Non. Les absents. Il y a beaucoup d'absents.
Ah, ben les absents,
énormément d'absents. Et puis en plus,
c'est ça. On a quand même des joueurs.
Dupont, Ntamack, Aldrit qui s'est blessé. Bon, on va pas citer Jalibert.
Non, mais c'est sûr que sur tous les blessés, déjà rien que sur le pack, on regarde. Déjà, on aurait pu avoir Laclaya qui aurait pu être essayé. Bon, au final, il s'est blessé. Sachant qu'Antonio, il me semble que c'est l'international français qui a joué le plus de matchs. Il n'a pas loupé une feuille de match depuis la Coupe du Monde, enfin depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment compliqué. On a des joueurs qui sont bons, qu'on laisse pas souffler, qui sont, comme le disait très bien Julien, qui sont totalement en perte de confiance. Il y a des joueurs qui manquent cruellement. La deuxième ligne, on se disait qu'on allait partir avec Flamand Meafou, ils sont même pas là, on a même pas encore vu l'ombre d'un orteil des deux joueurs. On perd Aldrit, on perd aussi Jelon. Alors c'est pas sûr que Jelon aurait été titulaire, même si sur la Coupe du Monde on a bien vu que Galtier avait quand même peut-être une petite préférence pour Jelon. Et d'ailleurs c'est peut-être d'ailleurs que Kroos est le meilleur Français depuis le début du tournoi. Peut-être qu'il a envie de montrer que lui il est indispensable plus que les autres. Donc voilà, c'est vraiment compliqué. Et moi non plus, je pense pas que ce soit la Coupe du Monde. Je pense qu'il y a un mélange de manque de confiance, de manque de créativité aussi. Parce que là contre l'Italie, pour le coup, je suis pas sûr qu'on ait vraiment voulu jouer à 100% la carte de la dépossession. On a quand même eu majoritairement le ballon et malheureusement on n'a pas su quoi en faire. En fait, on a, comme disait Coraline, on était impuissant, mais on était omniprésent dans l'impuissance. C'est-à-dire qu'en fait, on avait constamment des occasions, incapables de les concrétiser. Moi, j'avais l'impression qu'on pourrait y avoir un rafale qui viendrait nous aider en prenant le ballon et en le déposant dans le terrain, que le pilote ferait quand même un en avant descendant de l'avion, quoi.
Ah ben, passer cette ligne des 22.
C'est incroyable.
Passer cette ligne des 22, on ne savait plus attaquer, tout simplement.
Et ouais. Il suffisait de voir le match de Penaud, alors que pourtant, Mantillo est face à lui, attention, Trois plaquages tentés, trois plaquages manqués. Donc c'est pas le vis-à-vis qui l'a empêché d'aller marquer. Penaud, il a été incapable de produire quoi que ce soit. Le nombre d'en avant qu'il a fait, le nombre de mauvais positionnements, il y a des problèmes dans le tempo, le nombre de fois il commence ses courses beaucoup trop tôt.
C'est pour ça qu'on a mis l'équipe de France telle malade, parce qu'on voit que c'est même Penaud qui était un espoir incroyable ne réussit pas. Est-ce que du coup le message du staff ne passe plus non plus?
Peut-être
que Galtier, maintenant, le message n'y passe plus. Peut-être que le fait du départ de Labitte et Guézal change aussi la donne. L'arrivée de...
Sampéry, peut-être.
De l'ancien entraîneur de Castres, hein, j'ai oublié son nom. Arletaz.
Non, c'est de Perpignan.
Perpignan, pourquoi Castres?
Pourquoi pas.
Je sais pas. Parce que ça va être le match qu'on va pronostiquer après. Enfin bref. Voilà, donc de Perpignan. Est-ce que, du coup, il y a maintenant... une espèce de signal qui passe plus entre le staff et les joueurs.
Ah oui, la dernière fois qu'il y avait un signal qui passait plus entre le staff et les joueurs et qu'on a joué dans un stade fermé et qu'on a fait un match nul contre une équipe pas très bonne, bah, ça s'appelait Guy Noves et il a quitté la section pour le tour après. Donc bon, j'espère que pour Galtier, ça sera pas le même destin. Mais,
on a vu qu'Aldrit a soutenu Galtier, il a dit.
Mais bien sûr, mais tout le monde soutient Galtier, même s'il y a des médias anglais qui ont essayé de faire croire que Galtier allait être viré avant la fin du Six Nations.
Oui, bon, les Anglais. Quoi.
Voilà, mais non, il y a un problème. Ouais, malade, c'est le bon terme. Mais ne serait-ce que quand on voit la différence entre Lucu et Jalibert, qui sont excellents depuis qu'ils sont revenus à la Coupe du Monde avec l'UBB, il y a eu un changement de coach, donc c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être justement, il y a eu un nouveau discours, et là ils reviennent en sélection, il y a le même discours qu'avant, le même discours avec lequel ils ont perdu, et peut-être que oui, peut-être que c'est ça le problème.
Yannick Bru, en équipe de France, il a été avec Guy Noves, est-ce que peut-être en succession de Fabien Galtier dans, je sais pas moi, après la Coupe du Monde, est-ce que c'est une idée?
C'est une idée, mais après, de manière générale, et je crois que même un ancien adjoint de Galtier disait, j'ai plus le nom comme ça, mais il me disait que il disait en conférence de presse que le candidat naturel pour Galtier actuellement, bon après on peut en débattre, mais ça serait Gomola. Moi je suis pas hyper convaincu, mais
c'est ses résultats qui parlent pour lui. Après, voilà. Il faudrait le voir dans un autre club, peut-être.
Il y a une question de management aussi qui se pose au sein de l'équipe de France. Enfin, moi, je vois surtout les attitudes dans les conférences de presse. Alors, il y a eu une époque où Bernard Laporte aurait pu retourner la table du vestiaire et coller une baffe à chaque mec dans le vestiaire. Là, on a l'impression que Galtier est plus dans un style beaucoup plus bienveillant. Mais on a vu Charles Olivier.
Ah, il faut faire venir Christophe Furios alors.
Non, mais c'est pas ça, mais juste on voit quand même que les joueurs, j'ai l'impression, ils recrachent un peu la bouillie que leur sert le sélectionneur ou qu'il a déjà servi en conférence de presse. C'est-à-dire qu'on a les mêmes mots, les mêmes terminologies que nous a donné Charles Olivon en conférence de presse. La même chose, il faut faire corps, il faut faire bloc, il faut qu'on fasse le dos rond.
Cette phrase, il faut faire corps.
Moi, je veux bien et je suis pas forcément pour qu'on véhicule des valeurs ultra virilistes avec le rugby. Mais il y a un moment, il faut peut-être revenir au basique et que les mecs, ils aient envie de tout arracher sur le terrain et de le montrer aussi, de dire que les mecs, ils sont déçus ce soir, faut pas dire juste « Oui, on est triste pour les gens qui sont venus nous voir. Enfin, »
Alors sur l'imitation, je l'ai pas trouvé.
J'ai l'impression que les mecs, ils ont plus d'âme, quoi. Et moi, ça me rend super triste parce que je sais pas qui peut vraiment sonner la révolte dans cette équipe parce que même Aldrit, qui est un leader, sert la même soupe quand il vient en conférence de presse à la fin d'un match pas ouf contre l'Écosse. Il vient nous dire c'est le plus beau match de ma vie. Alors que franchement, on mérite pas de le gagner ce match. Enfin, je trouve que c'est compliqué déjà dans l'attitude des joueurs. Ramos a dit il faut pas qu'on passe pour une équipe faible. Oui, bon, merci. Quand on a dit ça, on a tout dit, quoi. C'est génial.
Ça veut tout et rien dire, quoi. D'accord, oui. Bah, je pensais pas que ça allait aussi.
Vous avez clos le débat, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est pour la flèche du temps, apparemment.
Oui, voilà, c'est ça. Et est-ce que l'absence de. Alors, on va revenir, et c'est terrible, hein, mais est-ce que l'absence de Dupont pèse autant que ce qu'on a imaginé? Est-ce que c'est pas encore pire?
Ça paraît un peu encore pire, ouais.
Parce que peut-être que Dupont, en fait, il était le mec qui motivait les troupes, qui... C'est peut-être lui qui disait « va mettre la tête » ou il y en a qui ne mettraient pas les pieds. Est-ce que c'était pas lui, au final, qui...
D'ailleurs, il a fait un très bon commentaire sur le match de l'Italie à Vancouver. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir un commentaire d'un mec qui a joué le match alors que lui, il l'a regardé sur sa télé. Et encore, il l'a dit, même le début du match, il ne l'a pas vu parce qu'il était 7h quand le match a commencé. Il était 7h à Vancouver quand le match a commencé en France. Il a dit, bah voilà, on n'a pas été capable de d'avancer, on avait le ballon, mais on savait
donc
rien en faire.
Donc même là, il arrive à analyser à l'autre bout du monde.
Il analyse. Et pourtant, Dupont, c'est pas connu pour être le joueur le plus acerbe sur un terrain.
C'est le meilleur joueur du monde.
Comme dit Corentin, quand Thomas Ramos dit, oui, bah il faut pas être nul, bah super. Mais je veux dire, bon, Thomas Ramos, on le voit crier sur les terrains à Toulouse à chaque fois qu'il y a l'équipe qui va pas bien. Pourquoi il est pas capable de le faire en équipe de France?
Comment il a commencé égos, à le faire quand il a pris du coup la place de Jalibert. On l'entendait quand même crier, motiver les troupes.
Oui, après, du coup, Ramos a peut-être ce pouvoir-là aussi.
Ouais. Ramos, après, du coup, voilà, on va avoir un problème, en effet, de qui remettre en 10, déjà qu'on ne savait même plus quelle charnière avoir, là, pour le coup. On va être
envoyer perdu. Les jeunes maintenant, c'est pas un peu les envoyer au casse-pipe, pour terminer?
C'est leur donner aussi une expérience, parce que c'est, malheureusement, les jeunes, on leur donne souvent l'expérience pour la tournée d'été. Et là, le tournoi destination, il est terminé pour nous, il est perdu. Donc,
Ça fait, oui.
Non, mais ouais, bon, clairement, enfin, là vraiment, en termes de points, c'est terminé, quoi. Donc, pourquoi ne pas tenter de justement faire rentrer un gailleton qui fait plein d'allers-retours entre la section paloise et le.
Ça va, la propagande, on a compris, Coralie. Merci, Coralie.
Non, mais la propagande paloise. Je pense qu'il a sa place. Je pense sincèrement qu'il a sa place en équipe de France.
Eh bien, merci pour ce débat. On regardera encore France Pays de Galles. Voilà, pour voir ce que ça va donner. On n'est pas persuadé, hein. Ouais, ça soupire beaucoup, mais c'est un petit peu l'état de cette équipe de France. On soupire et on attend de voir les prochains matchs tout de suite. Le bon prono, il nous reste 2 minutes dans cette émission. On va commencer par Julien. Julien, vous avez 30 secondes top chrono pour nous donner le score et le vainqueur entre le Stade Toulousain et Castres. C'est ce samedi à 15h.
Bon, de toute évidence, je partirai sur Toulouse, mais Castres a quand même, sur les deux dernières confrontations, c'est 2 victoires castraises, il me semble. Et Castres, ces 3 derniers matchs impressionnent. Ils ont mis un sacré résultat à Bordeaux. Ils ont aussi, dans un match assez bizarre, qui ont quand même aussi battu Pau, là-bas. Donc franchement, Castres va plutôt bien. Et Toulouse aussi a montré... ils avaient beaucoup de ressources et surtout voilà. Ah, où j'étais très...
Ah ouais, c'est 30 secondes pile.
Donc juste Castres, un petit score, le score.
Castres score.
Victoire Toulouse, ah, Toulouse. 30 à 21.
Très bien, c'est noté. Ah oui, ça vaut des points. Coraline, à vous.
Compliqué pour ce derby. Ouais, exactement. Non, je pense qu'en effet, Castres a fait un très très gros match ce week-end contre Bordeaux. Ils prennent le bonus. Je vois cependant quand même Toulouse l'emporter. Toulouse qui a fait un excellent match face à Clermont, qui gère très 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 bien sa période de doublon, qui fait tourner et qui fait jouer les jeunes justement. Voilà. Coucou l'équipe de France. Et ça marche. Donc victoire du Stade Toulousain. Bonus offensif, 20 points d'écart.
Très bien, c'est très précis. C'est noté, on va passer à Erwan.
Je vais partir un peu sur ce que disait Coraline, surtout parce qu'il y a quelques années, on avait l'impression que c'était le gros affrontement, les Toulouse-Castres. Et là, ça fait 2-3 ans qu'à chaque fois, ils mettent les espoirs, les deux équipes mettent les espoirs sur les matchs. Donc je m'attends pas à une grosse feuille de match. Par contre, au vu de ce qu'ont montré les jeunes Toulousains à Clermont, et là, on va leur redonner du temps de jeu encore... Je miserais pareil du côté de Toulouse, mais un score par contre moins impressionnant. Plus serré, un 34-30 par exemple.
Ah oui, d'accord, ça vaut des points. Et pour terminer, Corentin.
Ouais, je vais peut-être prendre un petit peu le contre-pied de tout le monde, sinon tout le monde va dire que c'est le Stade Toulousain qui va gagner. Il faut quand même saluer le fait que voilà, les jeunes ça tourne bien en ce moment. Mais Castres s'exporte bien et je pense qu'il y a aussi le côté fraîcheur qui va primer, peut-être même un peu l'expérience aussi. Donc ouais, moi je vois plutôt Castres s'imposer, mais voilà, d'une courte tête, 23-20, les Toulousains prendraient quand même le bonus défensif, mais voilà, je pense que Castres va réussir à aller faire un petit coup pour confirmer leur bonne dynamique et les Toulousains vont payer leur largesse défensive actuelle.
Super.
Voilà, très ponctué, ce super.
Oh ouais, ça c'était du, mais toujours très attentif. Voilà, parce que Corentin il a souvent les bons pronos d'ailleurs. Coraline aussi. En fait, il y a que Erwan qui se prend les pieds dans le tapis.
Mais voilà. Parce que moi, je j'aime le risque. Je prends.
Vous des... aimez vivre dangereusement, c'est ça.
J'aime le risque et peut-être que bientôt j'aimerais l'haltérophilie grâce à vous.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas très radiophonique, mais bon, voilà. Peut-être un jour on ira faire de l'haltérophilie. Voilà.
Corentin c'était... qui avait d'ailleurs le bon pronos, mais pour le mauvais match.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Un petit stress partout, mais. pas au bon endroit.
C'est ça. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Au menu de la semaine prochaine, nouvelle émission, donc nouveau sport olympique. On parlera de triathlon. On mettra l'endurance au cœur de l'émission. Très belle semaine et à la semaine prochaine.